France Inter. Marion Lourd. Le téléphone sonne.
Il se passe quelque chose dans nos armoires. Si, je vous assure, un bruit qui vient de votre dressing. Et c'est peut-être bien le bruit du changement. Mais quel changement? Les indices vont un peu dans tous les sens. Dernier en date, le bilan mitigé des soldes d'été. On imaginait les Français déconfinés, ravis d'aller se rhabiller. Finalement, les ventes seraient en baisse de 20 à 25% par rapport à l'an dernier. Et la pandémie mondiale a rendu malade aussi le secteur de la mode. Difficultés d'approvisionnement, magasins fermés. D'ici la fin de l'année, le groupe Vivarte, maison mère André Minelli, la halle sera liquidée. Les enseignes Gap et Go Sport se sont vendues pour 1 euro symbolique. Des centaines de boutiques de mode ont fermé. Célio, par exemple, des milliers d'emplois sont perdus chez Camailleux, entre autres. À côté de ça, humeur au beau fixe chez le géant du luxe LVMH. Ça va mieux qu'avant la Covid. Plus de 5 milliards de bénéfices au premier semestre, comme si de rien n'était. Kering aussi vend mieux qu'avant la pandémie. Alors, quel changement dans le secteur de la mode? Ajustement passager ou tendance lourde? Est-ce qu'on va consommer moins? Est-ce qu'on va consommer mieux? Quelques-unes de nos questions sur France Inter ce soir. On se retrousse les manches, on met l'ouvrage sur le métier et sans prendre de gants, s'il vous plaît. C'est le téléphone sonne. Bienvenue sur France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Pascal, vous nous appelez de Rhône-Alpes. Bienvenue sur France Inter.
Bonsoir à tous. Plutôt que d'acheter trop de vêtements, pourquoi ne pas les échanger? Il existe de nombreux sites discrets. Bien entendu, je parle de vêtements d'assez bonne qualité.
Alors merci Pascal pour vous répondre ce soir en studio. Serge Carrera, maître de conférence à Sciences Po et membre de la Fédération de la Haute Couture où vous vous occupez des marques émergentes. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à distance, Étienne Djelloul, vice-président de la Fédération de l'Habillement. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Serge Carrera, là on se tire un peu une balle dans le pied pour commencer. Est-ce que finalement on arrête de vendre et on échange tous nos vêtements sur Internet?
Alors on peut effectivement les échanger et c'est l'un des modes qui est en train de se développer actuellement, de permettre effectivement une économie circulaire dans la mode et notamment comme le soulignait votre auditeur, avec des vêtements de qualité. Parce qu'effectivement, si on échange des vêtements faits dans des conditions sociales et environnementales mauvaises, on ne résout pas le problème. Donc effectivement, il y a une notion de durabilité dans la mode, et notamment chez les consommateurs, qui devient de plus en plus importante et qui permet justement d'échanger. Ensuite, le principe même de l'échange, c'est qu'il faut un marché primaire pour avoir un marché secondaire. Parce que effectivement, il faut donc être aussi dans cette circularité, mais il faut alimenter cette circularité.
Donc il faut des achats au départ.
Absolument, il faut des achats au départ pour pouvoir justement ensuite échanger ou revendre ou être dans cette économie circulaire.
Et c'est une tendance qu'on observe, une tendance lourde de voir les gens acheter en occasion sur Internet ou échanger sur Internet?
Oui, en effet, on observe une véritable explosion de ce marché, notamment dans les jeunes générations, qui aujourd'hui ont pris ce réflexe d'échanger ou de vendre leurs vêtements, notamment à travers des applications digitales.
Étienne Djelloul, est-ce que ça vous fait un peu peur, cette idée-là qu'on puisse échanger ses vêtements sur Internet? Ça risque de faire un peu chuter les ventes, non?
Eh bien, pas du tout, puisque on constate aussi, pas uniquement sur des sites Internet, mais aussi dans des boutiques, puisqu'il y a beaucoup de systèmes qui proposent une jonction entre l'Internet et la mise à disposition des produits en boutique. Il y a plusieurs sites qui font ça. Et plusieurs de commerçants indépendants, ce qui est important, sont conseillés par la Fédération nationale de l'habillement pour pouvoir relayer ces produits de seconde main. C'est vrai, il y a un ajustement du marché, mais c'est un rebond habituel. Le commerçant est là pour réagir.
Ce que vous nous dites, c'est qu'on peut trouver en boutique maintenant des vêtements d'occasion.
Tout à fait, ce qu'on appelle la seconde main, le up for recycling bien français.
Donc
la seconde main est à fond en ce moment d'être proposée dans de nombreux commerçants. Il faut simplement trouver la liaison, je pense surtout à une application qui s'appelle Fripiri. Frippy, c'est F-R-2-E-P-Y, qui sont des leaders dans le mix de boutique et Internet, et ça, ce sont des choses qui sont d'actualité.
On sait aussi qu'il y a même des chaînes qui font ce genre de choses maintenant.
Oui, Oui, tout à fait. Tout le monde est revenu sur le sujet, puisque, mais vous savez, le dépôt-vente, il est aussi vieux que dans tous les anciens métiers. Les boutiques de dépôt-vente ont toujours existé, mais maintenant, ils sont actualisés parce qu'il y a un effet de mode, il y a un effet d'ajustement de marché, de réflexion, et beaucoup de jeunes repensent à ça, et c'est quelque chose de favorable pour la consommation.
Ça ne fait pas chuter les ventes du marché primaire, comme disait Serge Carrera, les ventes qu'on effectue au départ de produits neufs?
Oui, c'est une réflexion différente, mais vous savez, le marché est en train de se caler par rapport à un après-Covid. Je pense qu'il y a une façon de consommer qui va être différente, il y a des réflexions qui vont être engagées par les consommateurs en général, plutôt dans une intelligence de consommation et surtout une proximité. Nous sommes, nous, commerçants indépendants, les 32 000 commerçants indépendants qui sont en France, ont plutôt cette étiquette de proximité, d'avoir un achat réfléchi et pas forcément une surconsommation.
Donc comment on fait pour le développer? On crée des rayons spéciaux, ça ressemble à quoi?
C'est ça, on crée des rayons spéciaux, on met un process en route et surtout, on essaye d'avoir une éthique par rapport à tout ça. Donc c'est comme dans toutes les nouveautés, il y a des balbutiements, il y a des choses qui vont être faites à tort, il y a des choses qui vont être super et ça c'est le consommateur et le commerçant indépendant qui vont s'ajuster. Mais je pense que là, on a pris vraiment un tournant.
Alors, on va revenir peut-être à ce que vous appeliez tout à l'heure le marché primaire, Serge Carrera. C'est vrai que moi, ça m'étonne en tout cas ce succès un peu mitigé des soldes, parce qu'on imaginait que les gens qui sortaient du confinement allaient vouloir se rhabiller parce qu'ils allaient revenir au travail, comme on dit, en présentiel. Et puis finalement, bah, les ventes sont plutôt en baisse par rapport à l'an dernier. Alors, vous avez une explication, vous, à ça?
D'abord, c'est un phénomène français, ce phénomène de solde, parce que globalement, à l'échelle mondiale, et les résultats d'un certain nombre de groupes récents montrent une grande dynamique du secteur en général, de la mode ou du luxe.
Donc ça reprend malgré tout.
Donc ça reprend, avec des difficultés, on va dire, bien évidemment, une situation économique qui, même si elle redémarre, demeure difficile, et peut-être un changement, en tout cas, de priorité pour un certain nombre de consommateurs, d'où le besoin pour la mode, effectivement, de redonner envie et des initiatives pour justement correspondre et peut-être adhérer plus aux aspirations des consommateurs aujourd'hui, peut les rendre encore plus désirables et redonner cette attraction que la mode a toujours eue.
Vous pensez à quel genre d'initiative?
Non, mais qui peuvent être des initiatives de transparence, qui peuvent être des initiatives d'engagement aussi sociétaux, qui peuvent être des initiatives qui permettent d'être en interaction et d'être extrêmement en communauté presque avec ces consommateurs qui, pour aujourd'hui plus des deux tiers, disent qu'ils sont en demande d'une certaine éthique, d'une certaine responsabilité de la part des acteurs.
Étienne Gelloul, vous, à la Fédération de l'habillement, vous partagez le diagnostic de Serge Carrera, c'est-à-dire peut-être que les soldes n'ont pas très bien marché, mais en revanche, les ventes reprennent dans le secteur de l'habillement, de la mode?
Alors bien sûr, ce sont des statistiques que nous avons sorties la semaine dernière, hein, puisqu'on constate que 7% quand même des soldes par rapport à 21 et par rapport à 20, il y a une augmentation de plus 7%. On a un comparatif à moins 1%.
J'ai pas très bien compris votre chiffre.
Donc plus 7% de juin
de
2021,
vente.
Plus 7% de la consommation de soldes purs de juin 2021 par rapport à 2020.
Ah, c'est contradictoire avec les chiffres dont je parlais tout à l'heure, donc.
Oui, non mais oui. Non, ils vont. Si vous voulez, globalement, le premier semestre de consommation fait bien de 2020 par rapport à 2019, fait bien de moins 22%. Mmh. Et le premier semestre 2021 par rapport à 2020 fait bien un état de moins 5%. Donc on voit bien qu'il y a un tassement. C'est un faux rebond pour le mois de juin. Mais bien avant ça, vous avez raison de dire que les soldes ont moyennement marché. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'à l'ouverture, puisqu'on sortait d'une période Covid qui était le 19 mai, il y a eu quand même une consommation qui a été importante. Après, mois de juin, décalage des sols, surtout une météo qui est quand même catastrophique. Mmh. On ne peut pas vendre des tops et des maillots de bain et des t-shirts ou des petites robes à lacets avec du 17 degrés et des averses tous les jours.
Dans une
Donc
bonne
on
partie
a vraiment
du pays,
un comparatif hein. cette année qui n'est pas de chance. On a un Covid qui est déplacé, une période qui est déplacée, mais Attention, on a quand même une consommation qui était intéressante à partir du 19 mai jusqu'à fin juin. Nos clients étaient au rendez-vous et ça correspondait bien à la consommation puisqu'on nous l'annonçait et c'était vérifié venant de l'outre-Atlantique, des États-Unis où ils étaient à plus de 25%. Et ça a correspondu aussi.
Serge Carrera, vous parliez tout à l'heure de refaire envie. On a une question de Paul qui nous appelle de Paimpol. Bonsoir Paul.
Bonsoir.
Vous aviez une question à propos de la transparence de l'approvisionnement.
Oui, absolument. Je me posais la question sur l'approvisionnement, notamment de vêtements, puisque comme beaucoup de secteurs, l'habillement, notamment, s'est beaucoup délocalisé ces dernières années en Chine. Et je me demandais, est-ce que la pandémie de Covid-19 n'a-t-elle pas montré, notamment dans le secteur de l'habillement, une trop grande dépendance vis-à-vis de la Chine? Est-ce qu'on reverra, un peu avec le phénomène Made in France, est-ce qu'on reverra de plus en plus des productions de vêtements Made in France et de Made in France? Et je complète ma question, et pour faire en sorte que ces habits qui seraient refaits en France puissent être accessibles, surtout au plus grand nombre, parce que c'est vrai qu'on voit souvent dans plein d'autres secteurs entre ce qui est produit Made in China ou ce qui est produit Made in France, les prix ne sont pas vraiment les mêmes et ce n'est pas vraiment pour les mêmes budgets. Donc voilà, je voudrais avoir l'avis des intervenants.
Merci Paul. Serge Carrera, est-ce qu'il y a effectivement une envie de consommer peut-être plus local aujourd'hui?
Il y a définitivement une envie de consommer mieux de la part des consommateurs. Sur la différence de prix, il faut pas non plus être schizophrénique. Si on veut une mode responsable, si on veut une mode éthique, si on veut que l'ouvrier derrière sa machine à coudre ne soit pas un enfant de 5 ans, un t-shirt ne coûte pas 5 euros. Donc, si on veut que les normes environnementales sur les matériaux utilisés, si on veut que les normes sociales sur les personnes qui réalisent ces vêtements soient respectées, il faut effectivement des niveaux de prix qui ne signifient pas des prix de luxe non plus, mais qui signifient, on va dire, un prix juste. Et c'est là, effectivement, où se pose la question de la justesse du prix pour effectivement peut-être consommer mieux et un peu moins, mais qui, dans la valeur absolue, permet de continuer une croissance du marché, permet de continuer à former les ouvriers dans l'industrie, et aussi à avoir une industrie qui soit plus responsable. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une industrie qui effectivement produit 50% de sa production n'est pas vendue. Donc on ne produit pas de la mode, on produit des déchets, on produit effectivement une sorte de non-sens et une course de non-sens avant, en tout cas jusqu'à la période pré-Covid. Les approvisionnements ont bien évidemment été mis en difficulté par cette crise, mais on n'a pas vu de pénurie de vêtements non plus dans les boutiques. Donc il y a effectivement, et il y a différents niveau d'approvisionnement, bien évidemment. Il n'y a pas que la Chine, il y a bien évidemment toute l'Asie du Sud-Est, mais il y a aussi l'Europe. On peut produire en Europe à des prix raisonnables des vêtements de grande qualité. Et donc, effectivement, c'est plutôt cette réflexion sur la justesse du prix qui est en œuvre et qui est justement aussi une réponse que les consommateurs devront apporter pour justement peut-être arrêter cette course à la surproduction.
Le prix qu'on est prêt à payer. Donc Étienne Gelloul, à la Fédération de l'habillement, est-ce que vous observez qu'il y a peut-être un peu moins de Made in China dans les rayons ou que les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour être sûr de la provenance de leurs vêtements?
Alors c'est une réflexion globale. Alors dire que les gens sont prêts à mettre un prix plus important, je n'en suis pas sûr. Quand je vois par exemple la mise sur le marché du dernier Seek Shine qui a fait une levée de fonds extraordinaire, qui a battu Zara et compagnie en consommation ces jours derniers, je pense que les consommateurs sont encore loin de ces réflexions.
Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez détailler de quoi il s'agit?
C'est le nouveau site, il y a un nouveau site chinois qui est le premier site chinois qui est en ligne, qui est sorti sur du bas prix, Shine, et qui a battu tous les records. C'est plus de 8 millions. Il a fait une levée de fonds extraordinaire en quelques jours et il y a eu une surconsommation en quelques jours. Donc on voit bien que les consommateurs sont encore sur des achats de vraiment petits prix. L'achat Made in France, en règle générale, pour nous, commerçants indépendants, est plutôt un acte militant, aussi bien pour le commerçants indépendants. parce que il y a une réduction de, il y a quand même une réduction par rapport au paiement. Il y a quand même un engagement de la part du commerçant indépendant par rapport à ses fournisseurs français et qui ont une logique de court terme. Donc, on fait tous un effort pour aller vers le Made in France. Il faut aussi que le consommateur soit dans un acte militant parce que automatiquement, le prix du salaire moyen est beaucoup plus important en France et les coûts des matières sont beaucoup plus importants par rapport à une fabrication étrangère.
Quand vous dites acte militant, ça veut dire que ça concerne pas une majorité en réalité.
Non, on le voit bien. Moi, j'ai aussi des boutiques, hein, et on voit bien que dans nos rayons, on a. Quand vous présentez un t-shirt à 12,95 qui vient de très loin, et quand vous en présentez le même à 30, il y a souvent une réflexion qui est faite. Hein. Donc, c'est souvent. Par contre, les gens sont rentrés dans. Avant, on n'arrivait pas à le vendre. Il y a encore 2-3 ans, on ne le vendait pas. Maintenant, il y a vraiment un acte militant. Oui, j'achète un Made in France parce qu'il est fait dans le Nord, etc., etc. Et je veux participer à cet acte-là. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez joué le jeu et moi, en tant que client, je joue le jeu aussi. Mais il faut aussi que les fabricants français jouent le jeu aussi avec les commerçants indépendants. Souvent, ils ont pris une ligne directe, site Internet, vente sur Internet. Et on leur rappelle toujours que nous sommes là, nous, pour diffuser en ville, dans les centres-villes, à proximité, et pas seulement sur Internet.
Alors, je voudrais évoquer avec vous deux l'exemple du projet Résilience, qui est un groupement de petites entreprises qui est né en mars 2020. Au départ, pour fabriquer des masques en tissu, ça se passe dans les Hauts-de-France, vers Roubaix. Et on les a appelés, au téléphone sonne. Bonsoir Stéphanie Calvino.
Bonsoir.
Vous dirigez les ateliers du projet Résilience et vous avez fondé des rencontres qui s'appellent Anti-Fashion. C'est une sorte de groupe de réflexion sur la mode durable. Le projet Résilience, c'est de faire du local et de l'écologique en résumé.
Alors c'est ça. Donc je rectifie juste, je ne dirige pas les ateliers résilience. Moi, j'ai participé à la création de l'atelier résilience qui est à Roubaix, voilà. Et puis résilience rassemble des ateliers qui existaient déjà, qui font partie de l'économie sociale et solidaire, voilà. Donc c'est un rassemblement qui fédère des ateliers qui travaillent dans la confection ou qui ont par la suite été formés à faire de la confection textile.
Ben merci de la correction. Et alors, votre projet c'est local et écologique en deux mots.
Notre projet, c'est local, oui. J'entendais le Made in France. Moi, je crois au Made in local et au Made in raisonné. Voilà, c'est ce qu'on prône avec Anti-Fashion depuis longtemps et c'est ce que le projet Résilience a su mettre en place. Et c'est local et c'est sociétal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit à la fois participer à transmettre des savoir-faire de l'industrie textile qui n'était plus là ou en tout cas qui était pratiquement en vue d'extinction et en même temps à essayer d'aider des gens qui sont en difficulté et donc à les former pour leur transmettre ces savoir-faire et faire de nouveau, en tout cas, de la France et de certaines régions, que ça devienne de nouveau des régions industrielles, notamment comme Roubaix, qui était quand même le fleuron de l'industrie textile il y a quelques années.
Et la pandémie, ça a été un déclic pour ça? Vous ne l'auriez pas fait avant ou c'est dans la droite ligne de ce que vous envisagiez déjà?
La pandémie, ça a été un déclic pour lancer le projet Résilience, qui était l'urgence était de faire des masques en France rapidement et d'aider des gens en difficulté et de les former, voilà, et de créer des emplois. Ça, ça a été une réponse qu'on a su trouver pendant la pandémie. Et l'idée, ça a été de rester. On a construit un atelier en 3 jours à Roubaix, dans lequel il y a eu 250 personnes qui ont travaillé. On a fabriqué Résilience, a confectionné plus de 22 millions de masques en France. Et cet atelier à Roubaix en a fait plus d'un million. Et l'idée aujourd'hui, c'était de rester, bien sûr, et puis de continuer à fabriquer et essayer d'inviter les marques à relocaliser leur production, une partie en tout cas.
Et on parlait tout à l'heure de la question du prix que les consommateurs sont prêts à payer avec Serge Carrera et Etienne Djelloul. Est-ce que vous observez que le prix, ça peut être un frein à votre projet, à votre initiative par exemple?
Le prix, c'est un frein parce qu'on a éduqué les gens depuis très longtemps à acheter les choses sans valeur. Voilà, les vêtements sans valeur, l'alimentation sans valeur, tout est une histoire de éduquer les gens à acheter beaucoup avec une valeur très basse. Et ça, c'est un problème. Acheter un t-shirt le prix d'un croissant, c'est pas possible, concrètement. Voilà. Le problème, c'est que les gens ont la fait croire que la consommation, ça rime avec bonheur et qu'il fallait accumuler. Et ça, c'est une erreur. Aujourd'hui, effectivement, moi, j'entendais tout à l'heure, les gens sont prêts à acheter mieux parce qu'ils ont besoin d'avoir du sens dans leur achat et dans leur consommation. Ça, c'est important. Et donc, effectivement, nous, on a développé au sein de Résilience une marque qui s'appelle Low Impact, hein, qui est un t-shirt, puisque le t-shirt, c'est quand même, généralement, il fait 60 000 km. Et là, on arrive à sortir un t-shirt avec des tarifs un petit peu au-dessus des tarifs du Portugal et un t-shirt qui a moins de 5 000 km. Donc, avec un coton qui vient de Grèce et une confection qui se fait un petit peu partout en France dans le réseau Résilience.
Alors, dernière question peut-être, mais vous développez plutôt en magasin ou plutôt sur Internet?
Alors actuellement, nous on vend en B2B principalement, et on a commencé à développer un petit peu le B2C, mais c'est récent. Hein,
alors là vous parlez business, mais en traduction pour les auditeurs.
Donc ça fait business to business en fait pour la partie prioritaire du t-shirt, où en fait où on essaie de contacter des entreprises, des groupes différents, j'ai pas cité de nom, voilà, pour leur dire venez acheter du t-shirt au sein de Résilience, fabriqué par des gens de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, hein, tout le réseau de l'atelier. Et dernièrement, depuis un mois, on a créé un site internet où on commence à vendre ce t-shirt aux consommateurs directement.
Mmh. Eh ben merci Stéphanie Calvino de nous avoir répondu sur France Inter. Je me tourne vers Serge Carrera. On voit qu'il y a une attirance plus grande pour ce genre de modèle, mais est-ce que ça peut être le modèle général de la mode ?
La difficulté, c'est que ce mot mode recouvre des réalités extrêmement différentes, qui va de la fast fashion à la haute couture ou à l'ultra luxe. Donc on est sur non pas un modèle de mode, mais des multiplicités de modèles qui existent. Et d'ailleurs, généralement, quand il y a un nouveau succès, quand il y a une nouvelle marque, etc., c'est justement de réinventer le modèle, ou en tout cas de trouver des nouvelles modalités dans l'agencement de ce modèle. Donc oui, il y a des modèles nouveaux, certainement, qui vont émerger sur cette idée d'une production en France ou en Europe en général, sur une idée peut-être aussi de créativité, sur une idée d'engagement social comme dans ce projet de réinsertion, et justement comment la mode justement peut retrouver du sens en transmettant aussi des savoir-faire, des techniques et un métier.
En allant un peu plus loin et à l'extrême, est-ce que la fast fashion, est-ce que la mode consommable aussitôt achetée, aussitôt jetée, est-ce qu'elle peut disparaître à terme?
Ce serait peut-être souhaitable, mais c'est ensuite malgré les discours, on est néanmoins dans une dimension quand même un peu schizophrénique, dans le sens où les consommateurs qui aspirent à plus de transparence, à plus de responsabilité, etc., sont les premiers qui eux-mêmes alimentent constamment cette machine de la fast fashion. Donc c'est effectivement cette attraction de la fast fashion, aujourd'hui, elle peut être altérée. Ensuite, est-ce que le modèle en lui-même va disparaître? Je n'ai malheureusement pas de boule de cristal.
Étienne Gelloul, qu'est-ce que vous faites, vous, à la Fédération de l'habillement, pour essayer peut-être d'encourager les gens dans cette voie vertueuse plutôt que dans la voie de la consommation très rapide et jetable?
Bah, écoutez, c'est déjà vis-à-vis de nos chefs d'entreprise, on essaie de les alerter sur, par exemple, l'année dernière a été un grand élément pour la seconde main, par exemple, de dire que le upcycling et tout ce qui était autour de cette nouvelle disposition était très important. Et on a bien alerté, et on le voit bien, on oppose maintenant la fast fashion à la slow fashion. Et nous, on est plutôt dans cette tendance-là de dire la slow fashion, parce qu'il y a des produits qui peuvent venir aussi d'un peu loin, mais aussi en Europe, et qui ont un coût et qui sont dans l'économie raisonnée.
Serge Carrera, vous parliez tout à l'heure de la surproduction du nombre de vêtements assez incroyable qui n'est pas vendu chaque année. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, après la pandémie, avec peut-être un petit changement d'état d'esprit des consommateurs, est-ce que vous avez l'impression qu'on va plutôt vers la diminution de la quantité produite ?
Sur les volumes globaux, il faut l'espérer. Ensuite, la dynamique n'était pas celle-là avant pré-crise. Néanmoins, la crise a aussi fragilisé les entreprises, et ce surplus de production, il a aussi un impact financier dans les bilans des entreprises. Et par conséquent, aujourd'hui, effectivement, il y a eu un certain nombre de rationalisation dans les commandes, dans les collections et dans la production pour justement les revendre. Et ensuite, dans un système extrêmement complexe qui a aussi généré des troubles sociaux, notamment au Pakistan ou au Bangladesh, où des employés et des usines se sont retrouvés en très grande difficulté. Parce qu'on annulait des commandes, et que donc une usine avec 2000 ou 3000 employés au Bangladesh se retrouve fermée parce qu'elle n'a plus de commandes d'un grand donneur d'ordre européen ou occidental.
À la fois, c'est des usines où il y a parfois des incendies, des effondrements, des personnes qui travaillent dans des conditions compliquées.
Absolument. Et d'où cette nécessité de revenir aussi à cette idée du juste prix. L'idée n'est pas tant forcément de dire il faut absolument abandonner toute une production, etc. Parce qu'on est aussi dans un univers global, mais de considérer également que ces échanges doivent se faire sur la base de former aussi des ouvriers au Bangladesh, au Pakistan ou en Chine, avec aussi un changement de paradigme dans le sens où ce qui doit être demandé à ses prestataires et à ses fournisseurs, c'est pas le prix le plus bas, parce qu'aujourd'hui on leur demande le prix le plus bas, mais le prix qui permet de respecter l'ensemble des standards. Aujourd'hui, en Chine, vous avez un outil industriel absolument perfectionné, moderne, etc., qui peut permettre de faire éventuellement de la production d'excellente qualité, mais c'est pas ce qu'on demande aux usines chinoises. On leur demande de produire le plus bas possible et au prix le plus bas possible.
Y compris avec du travail forcé de minorités ethniques éventuellement.
Ce qui peut arriver pour un certain nombre de donneurs d'ordre, en effet.
En tout cas, il y a des enquêtes en cours.
Ou de fournisseurs et de... Voilà.
Maxime nous appelle de Marseille. Bonsoir Maxime.
Oui, bonsoir.
On parlait du juste prix, justement.
Déjà je voulais vous remercier pour la qualité de vos émissions.
Merci à vous.
Et puis j'avais une question en fait, est-ce que les gens qui n'achètent pas français, est-ce qu'ils seraient pas juste contraints économiquement? C'est-à-dire qu'il y a certainement des gens qui aujourd'hui aimeraient bien acheter français mais qui peuvent juste pas se le permettre. Je pense à des familles de 4 dont 2 enfants qui ont des besoins de vêtements réguliers. Et
c'est votre famille à vous?
Non, c'est pas la mienne, mais j'en connais par exemple dans mes amis. Et effectivement, il y a des gens qui aimeraient bien acheter français mais ils peuvent pas. Économiquement parlant, c'est juste pas possible finalement.
Donc consommer soit français, soit vertueux en tout cas. Étienne Djelloul, est-ce qu'effectivement le problème il est plus financier que militant, le problème de la consommation massive de vêtements peut-être un peu éphémères par rapport à celle de vêtements plus vertueux en tout cas dans leur modèle?
Oui, ça me paraît évident que tant que nous aurons des différences importantes dans les prix de vente entre le Made in France et les produits venant de l'extérieur, très loin, il y a des familles qui ne pourront pas honorer cet achat, par exemple à la rentrée avec les enfants, etc. Donc il y a un modèle à ajuster, il faut jamais jeter la pierre par rapport à des consommations comme celle-ci, il faut trouver le bon modèle. Par contre, il faut prendre de la hauteur, etc. Il faut trouver le bon modèle.
Et vous savez, c'est à qui de le trouver alors? Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on doit trouver le bon modèle, mais qui doit trouver le bon modèle?
Je pense que la fabrication, c'est-à-dire qu'on doit donner, on doit donner la possibilité aux entreprises françaises qui font du nouveau textile de se réunir sous des fédérations ou des choses comme ça. Mais la difficulté, par exemple, pour un chef d'entreprise qui diffuse des produits actuellement, c'est de trouver des entreprises françaises qui acceptent.
On a un petit problème de liaison, de trouver des entreprises françaises.
Il y a quelque chose à faire. Il y a le Made in France, c'est quelque chose. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir cette relation commerciale parce que les entreprises actuellement en France sont pas toujours équipées avec des réseaux de commerciaux. Donc, quand on les contacte, c'est parfois un peu compliqué. Toute la comptabilité derrière aussi parfois est un peu complexe. Il y a aussi eux la possibilité de. Vous savez, il y a un Made in France en septembre qui est toujours présent en France, mais la complexité de retrouver l'ensemble de ces entreprises est importante.
Je vous pose au passage la question de Sophie qui nous a écrit sur internet et qui dit « Les échanges sont encore la manifestation d'une certaine frénésie de consommation. Comment consommer sans trop se ruiner ?» Alors c'est quoi vos astuces à la Fédération de l'Habillement ?
Eh bien écoutez, il y a des périodes comme celle-ci, il y a les périodes de solde qui sont faites pour ça, pour déstocker les magasins. Mais il y a quelque chose de très... Vous savez, il y a une logique. Nous, depuis des années, nous réclamons une logique dans les périodes de solde. Quand vous avez des périodes de solde qui commencent au 14 juin, moi, je pense qu'on est encore dans de la frénésie. On devrait avoir une logique, c'est-à-dire les soldes d'été doivent terminer en fin de saison d'été et les soldes d'hiver doivent terminer quand c'est la fin de l'hiver. Vous verrez qu'automatiquement, les entreprises qui sont des grosses consommatrices, parce que nous, en termes de consommation indépendante, on est plutôt raisonné, on est dans la proximité. Ce sont des stocks que nous payons généralement, nous, commerçants indépendants, donc on est très raisonné sur nos achats. Mais les grands groupes, eux, se moquent un peu de cette façon de consommer. C'est pour ça qu'ils ont une frénésie d'avancer les dates de solde. Et il y a une notion quand même qui est quand même importante, si un jour on veut que ça s'arrête, c'est les bilans d'entreprise. Vous savez que la notion comptable, lorsque vous êtes en destruction et que la destruction des pièces qui restent est certifiée, vous l'enlevez tout simplement de votre bilan. Donc il y a peut-être aussi des notions comptables, et ça, c'est pas nous qui pouvons le décider, c'est en termes de nos députés qui peuvent l'enlever. Donc il y a quand même des choses à faire.
Serge Carrera, vous avez l'impression que cette frénésie, elle existe aussi dans les grandes marques, les marques de luxe dont je parlais tout à l'heure, celle du groupe LVMH, du groupe Kering, où c'est réservé à la mode de consommation massive.
La frénésie de consommation
ou de
la
production, frénésie de vente de...
Par essence, on est sur une forme de rareté, même si on est aujourd'hui avec des groupes mondiaux, avec des marques globales, on reste quand même sur un principe de rareté, sur une notion de durabilité, même si on est effectivement le luxe peut être dans la mode et s'inscrire complètement dans la mode, mais on est aussi sur des matériaux qui se doivent d'être des matériaux d'exception ou en tout cas des matériaux de qualité. On est sur des standards de savoir-faire et d'usage de techniques qui sont également précieuses ou rares. Et donc, on est, bien évidemment, l'expansion du secteur a développé la production du secteur. Mais on est néanmoins sur des volumes qui, par rapport, comparés à des chaînes spécialisées ou à ce genre d'autres acteurs de la mode, sont infinitésimales.
Mais, par exemple, l'année dernière, au printemps, je crois, Dries Van Noten, le créateur belge, avait lancé une initiative pour dire « Reprenons en main le calendrier de la mode, peut-être en faisant un peu moins de défilés, etc. » Il avait été suivi par plusieurs créateurs. Toutes les maisons, toutes les grandes marques n'ont pas suivi. On voit que Chanel garde exactement le même rythme de défilé. Voilà, il y a une scission, y compris au sein de la mode de luxe et des grandes marques, entre ceux qui se disent « bon, on va essayer de produire un peu moins, un peu mieux » et puis ceux qui se disent « on va rester pareil, on va revenir au monde d'avant ».
Alors, plus précisément sur ce manifeste de Marine Serre et de Dries Van Noten, le point était essentiellement sur la problématique de la saisonnalité. Mmh. Et surtout, l'évolution récente dans le monde en général, et qui a notamment été très poussée par les acteurs, les distributeurs sur le monde digital, de solder quasiment immédiatement des collections. C'est-à-dire une collection arrive, des pièces arrivent, et au bout de 4-5 semaines, elles sont déjà à moins 20% ou à moins 30%. Ce qui crée effectivement une sorte de schéma et une nécessité constante et une pression constante sur les créateurs d'avoir effectivement des livraisons extrêmement régulières et des nouvelles collections. Donc c'était plus fondamentalement cette notion de saisonnalité et de faire en sorte que quand vous livrez une saison d'été au mois de mars, elle ne soit pas soldée au mois d'avril, mais qu'éventuellement on attende effectivement le mois de juillet pour la solder, qu'elle fasse beaucoup plus de sens pour chacun, sachant que on est dans une industrie où vous avez aussi un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas des distributeurs directement, qui passent à travers effectivement un réseau de distributeurs globaux, des grands magasins, des sites internet, etc., à travers le monde, et qui vont distribuer leurs collections. Et donc il y a ce manque de maîtrise parfois et cette nécessité d'échange et de dialogue pour justement permettre à un produit de durer un petit peu plus longtemps et de faire en sorte qu'on ne soit pas strictement sur un produit justement périssable et ne pas tomber dans cette idée d'obsolescence immédiate d'un produit au bout de 4-5 semaines.
Il a été entendu cet appel ? Il a été suivi ?
Il a été en partie suivi, ne serait-ce que parce que les maisons elles-mêmes ont réduit leur rythme de développement de collection, à la fois parce que conjoncturellement il était difficile de les développer avec les ateliers et les différentes usines qu'on peut avoir, et par ailleurs pour des raisons aussi économiques, qui est de considérer que de faire 2 collections par an ou 4 collections par an permet effectivement de rationaliser les choses plutôt que d'être constamment dans le développement de nouveaux produits, sachant que développer un produit pour une marque coûte extrêmement cher.
Étienne Djelloul, là Serge Carrera évoquait la question des vêtements, alors dans le luxe et dans la haute couture, qui peuvent être soldés immédiatement quelques semaines plus tard sur internet. J'en profite pour vous parler du numérique. Ça s'est beaucoup développé la vente sur internet pendant les premiers confinements, et puis il y a peut-être des habitudes qui ont été prises par les consommateurs et qui font concurrence à la vente en boutique, non ?
C'est une consommation qui est aussi connue par les boutiques, puisque beaucoup de commerçants ont justement fait des sites internet et ont développé leur click and collect et aussi ont survécu grâce à cette vente internet. Donc l'opposition internet boutique physique n'est plus d'actualité pour nous. Elle est au contraire, c'est un élément de chiffre d'affaires qui est pris de plus en plus en compte dans nos commerçants indépendants.
Mais ça veut dire qu'il y aura à terme quand même moins de boutiques physiques ?
Non, c'est que nous faisons le parallèle, c'est-à-dire que nous faisons voir ce que nous sommes capables de faire dans nos boutiques, sur nos sites internet, et les clients et nos consommateurs sont friands de ça. Ils voient, ils se renseignent, ils demandent, ils ont une interaction directement avec le commerçant et ça marche très bien. On le voit bien, la plupart des les commerçants qui ont été fortement impactés par 7 mois de fermeture sur 13 mois d'activité, se sont tous mis à être sur la toile et ont développé leur site internet. Et ça, c'était primordial cette année.
Et sur la question du type de point de vente, est-ce que certaines boutiques s'en sortent mieux parce qu'elles sont en centre-ville, moins bien parce qu'elles sont dans des centres commerciaux ? Je pense aussi à l'usage du pass sanitaire qui va se mettre en place.
C'est évident qu'il va y avoir une grande difficulté pour certains commerces qui sont dans les centres commerciaux, puisqu'on voit bien que le pass sanitaire ralentit les rentrées dans les centres commerciaux, etc. Mais nous, en tant que commerçants indépendants, on n'opposera jamais le pass sanitaire à notre survie, puisque nous rappelons-nous que nous avons été nommés commerçants non essentiels pendant des mois. Donc nous ne voulons plus revoir cette définition. Nous voulons rester ouverts et nous sommes prêts à des protocoles, etc., pour pouvoir exister, tout simplement, faire notre activité. C'est 80 000 salariés pour les commerces indépendants partout en France. Hein. C'est quand même une masse de gens qui travaillent, qui ont un revenu, souvent des femmes isolées. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important que le commerce existe.
Et donc vous êtes plutôt pour l'application du pass sanitaire, si je vous entends bien.
Oui, nous sommes pour l'application du pass sanitaire avec, je dirais entre guillemets, modération. Il faut être logique, c'est-à-dire ne pas interdire ou quoi que ce soit. Il faut être la première des choses, c'est vaccinons-nous. Le message est clair. Soyons nos salariés aussi. Allons dans cet engagement-là pour qu'on puisse vivre tous ensemble et prendre soin des uns des autres. Ça fera prendre aussi soin de nos boutiques et ça permettra de continuer une activité et un chiffre d'affaires.
Serge Carrera, il y a une question que j'ai envie de vous poser, alors moins peut-être sur le sens que peut avoir le vêtement que sur les envies qu'ont les consommateurs aujourd'hui vis-à-vis des vêtements. Est-ce qu'on a changé d'envie ? Est-ce qu'on a envie de garder son jogging qu'on avait à la maison quand on était en télétravail ?
Le propre de la mode, c'est de se démoder. Donc, on pourrait prévoir qu'effectivement cette tendance du jogging, loungewear, etc., va peut-être décliner. Mais on est aussi sur un phénomène qui était déjà présent de multiplicité d'identité. C'est-à-dire que très peu de personnes ont un seul vestiaire et la plupart des individus aujourd'hui s'identifient ou en tout cas jouent énormément sur leur vestiaire, sont quasiment leur propre styliste et c'est encore plus le cas dans la jeune génération, et de pouvoir être très urbain un jour, très raffiné, sophistiqué un autre, et de jouer en permanence sur ces éléments, de pouvoir porter effectivement des baskets avec un costume, de pouvoir porter des talons avec un jogging. On est effectivement sur cette hybridation un petit peu des différents styles et surtout une recherche d'individualité extrêmement importante de la part des individus.
Ça s'est accentué avec la pandémie ou c'était déjà...
Ça s'est renforcé, je pense notamment aussi par l'amplification des réseaux sociaux, sachant que le lien avec l'altérité a été réduit en partie à cette dimension des réseaux sociaux. Et par ailleurs, cette contrainte qui a pesé sur nos corps, chose qui est quand même assez unique dans les dernières décennies quand même, a aussi certainement transformer la représentation qu'on se faisait de notre corps et de la façon dont on voulait la transmettre, ou en tout cas la faire transparaître à travers son allure.
Merci. Colline, vous nous appelez de Paris. Bonsoir Colline.
Bonsoir.
Alors vous avez une question pour France Inter.
Oui, Tout à fait. En fait, je voulais savoir ce qu'allaient devenir les stocks qui ont été accumulés, notamment à cause du Covid. Je sais qu'il y a déjà des marques qui se débarrassent de leurs invendus, en les brûlant notamment. Et je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer de tous ces stocks de vêtements qui ont été stockés pendant le confinement et qui le sont aussi habituellement et qui sont détruits par les marques.
Alors, Étienne Geloul, c'est peut-être vous qui avez la réponse à cette question ?
Alors, j'ai commencé déjà à vous la dire tout à l'heure, hein. Il y avait quand même cette notion comptable pour les gros stockages, donc les grosses enseignes, etc., qui font une destruction massive, qui est certifiée par un huissier. Ils peuvent l'enlever tout simplement de leur stock. C'est un élément comptable qui peut être déduit tout simplement. Mais pour un commerce indépendant.
Mais physiquement, parce qu'ils deviennent.
Ah, mais ils sont détruits. Ils sont détruits, certifiés détruits à la destruction. Ils sont détruits. Le surstockage peut être enlevé du bilanciel. Donc il faut simplement une certification et une présence d'un huissier pour certifier que ce stock de milliers de pièces ou de milliers d'euros et il est enlevé en bilan. Mais par contre, complètement différent dans un commerçant indépendant. Un commerçant indépendant, lui, va raisonner pour aller jusqu'au bout du stock. C'est-à-dire qu'il va le faire en promo, il va le faire en sol, mais il le gardera parce que c'est un élément financier important. Il ne le fera jamais déstocker sur son bilan. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que parfois, vous avez des braderies dans des centres commerciaux ou dans des centres-villes, hein, et vous avez tous les éléments de sol qui sont importants. C'est pour ça qu'on demandait un réajustement des périodes de sol.
Merci. Étienne Geloul, vice-président de la Fédération de l'habillement. Merci Serge Carrera, maître de conférence à Sciences Po. Je vois que vous vouliez parler, malheureusement, on n'a plus le temps. Merci à tous les deux de nous avoir répondu sur France Inter pour la préparation de cette émission. Merci à Adèle Domas, Zoé Fauché, Pierre de Certaines. Merci aux standardistes de France Inter et en régie à Clément Berman et Michel Mazikian.